Bonjour à tous. Alors, ce matin, c'est vrai, c'est le dimanche de Pâques. C'est le dimanche où on se rappelle la victoire de Christ à la croix, sa victoire à travers sa mort, et puis sa victoire aussi à travers sa résurrection. Le texte qu'on va étudier ce matin, c'est la suite de ceux qu'on étudie depuis plusieurs mois. Donc ça se trouve toujours dans Romains. Et le texte qu'on va lire, eh bien, nous parle de cette mort, nous parle de cette vie, et nous dit finalement ce que cette mort et cette vie représentent pour nous, ce qu'elles changent dans notre vie, dans notre relation à Dieu. Donc on va étudier les 11 premiers versets du chapitre 5 de Romains. Dans les chapitres précédents, Paul nous a rappelé que ce qui séparait les Grecs des Juifs, bien, cette séparation n'avait pas lieu d'être parce que notre condition était la même devant Dieu. On l'a rappelé ce matin, hein. Nous sommes pécheurs, nous le sommes tous, quelle que soit notre condition, quelle que soit notre manière de vivre, bonne ou mauvaise, au bout du compte, nous sommes tous privés de cette gloire que Dieu nous avait donné à l'origine. Et nous sommes tous libérés de la même façon. Nous sommes tous libérés de ce péché, de cette mort. Nous sommes libérés par la foi et par la foi en Christ. Le chemin est le même pour tous. Dans le chapitre 1 de Romains, Paul a déjà proposé un résumé de l'Évangile. Et il a dit, l'Évangile, c'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient. Dans les versets qu'on va lire maintenant, vous allez voir qu'il va nous proposer une autre façon de résumer cet évangile. Et vous allez voir que le texte qu'on va lire est un texte qui est très construit. Il utilise plusieurs figures de style, il va utiliser une gradation nous amener d'un point vers un autre en reprenant des idées, en les mettant en miroir avec d'autres. Enfin, c'est vraiment un texte qui est très, très beau, très, très, très profond. Et vous allez voir qu'en le lisant, ce qui en ressort, alors on va évidemment chacun le reçoit d'une façon différente, mais je trouve que ce qui en ressort, en fait, c'est la solidité. C'est l'assurance, en fait, que ce texte nous donne dans notre relation à Dieu, la façon dont il établit ce que Dieu a accompli pour nous, ce qu'il a fait de nous, une des grandes idées qui traverse ce texte, vous allez le voir aussi, c'est ce que Dieu nous promet pour plus tard, ce qui est devant nous, ce qui est notre espérance, et en même temps ce qu'il nous donne aujourd'hui. Vous verrez que il y a tout le temps un aller-retour, tout le temps un équilibre entre ces deux façons de voir la vie, ce qui est aujourd'hui pour nous et ce qui est devant nous. Donc je vais lire dans la traduction du semeur, donc chapitre 5 de Romains, les versets 1 à 11. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu, grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avons eu accès au moyen de la foi à ce don gratuit de Dieu, par lequel nous nous trouvons désormais établis. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Mieux encore, nous tirons fierté même de nos détresses, car nous savons que la détresse produit la persévérance. La persévérance conduit à la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve nourrit l'espérance. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice pour nous, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a obtenu la réconciliation. Nous sommes en paix avec Dieu. Ici, la paix dont Paul parle, c'est pas un sentiment qui nous habite, c'est une réalité objective. Nous sommes en paix. Nous étions, certains passages disent, des enfants de la colère. Nous étions, et ce texte nous le dit aussi, ennemis de Dieu. C'était ça notre statut. Et les premiers versets nous disent, voilà, maintenant, eh bien, vous êtes en paix avec Dieu. Nous sommes établis dans la grâce. Donc là, Paul nous donne, dans ses premiers versets, nous donne un état des lieux de notre situation. Ce que nous sommes où nous sommes. Nous sommes en paix et établis dans la grâce parce que Christ nous donne accès. D'accord ? Christ est la porte par laquelle nous entrons en relation. Alors, le texte aurait pu dire « Le Christ nous donne accès à Dieu ». En fait, ce que le texte nous dit là, c'est « Christ nous donne accès à la grâce de Dieu ». Nous donne accès à un nouveau mode de relation avec Dieu. Notre état précédent était un état de conflit, de séparation, d'inimitié, de colère. Et dorénavant, notre mode de relation avec Dieu, c'est la grâce. Alors, ce texte dit don gratuit. Alors, je sais que Yann n'aime pas cette expression parce que c'est deux fois la même chose. Alors, effectivement, le mot grec, c'est grâce. D'accord ? La grâce. La grâce, ce don que Dieu nous fait, c'est la façon dont il interagit avec nous désormais. Il nous donne. Et nous sommes établis. Donc ce mot-là montre bien la solidité finalement de notre position. Nous ne sommes pas de passage dans cette relation. Ce n'est pas une relation qui va se dissiper avec le temps, qui pourrait être remise en question par notre mauvaise attitude ou par des circonstances. Nous sommes établis dans cette relation. C'est là maintenant où nous sommes. Et bien sûr, ce statut qui nous est donné ne repose pas sur ce que nous avons accompli. Parce que si c'était le cas, ou sur ce que nous accomplissons. Alors, parce que là, évidemment, tout serait remis en question. Mais c'est établi sur ce que le Christ a accompli. Un mot qui revient souvent dans ce passage, il revient trois fois, c'est le mot fierté. Et la première fois donc qu'il apparaît, là, donc au verset 2, notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Et juste après, nous tirons notre fierté même de nos détresses. La fierté. Alors, j'avoue que moi, c'est un mot avec lequel je ne suis pas forcément, je suis pas très, très à l'aise. En grec, c'est un mot dont la racine est se vanter. Donc, il y a des traductions assez différentes hein, de ce fierté. Donc, ici, donc fierté. D'autres traductions disent orgueil. D'autres traductions disent encore se glorifier, nous glorifions dans l'espérance, d'accord ? Donc littéralement, nous vantons de l'espérance, nous vantons de l'épreuve que nous traversions. Et donc ce terme, alors ici, donc dans cette version, il est traduit par fierté parce que évidemment, il contient il a une connotation positive. Dans la traduction qui dit orgueil, forcément, en français, l'orgueil a une connotation négative. Et je pense que ces difficultés à traduire finalement ce mot-là, eh bien, ça vient de simplement du fait que ce sentiment que Paul va mettre en avant, ce sentiment est complètement dans notre vie corrompu par la chute. Je ne sais pas comment vous classez les péchés. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup de sens de mettre une gradation, mais malgré tout, moi, une des choses qui me choque le plus finalement dans notre monde, c'est effectivement l'orgueil des hommes. Cette façon de surestimer tellement notre importance, notre valeur. Et on voit les conséquences de cet orgueil dans tellement de domaines de notre société, de notre propre vie. On voit et effectivement, c'est ce qui nous pousse finalement à sortir Dieu de notre vie pour essayer de prendre toute la place. Donc, c'est vrai que le fait que Paul emploie ce terme, pour moi, c'est une surprise. Enfin, j'ai du mal à bien saisir en fait ce que Paul met en avant là-dedans. Et dans cette idée de se vanter, il y a évidemment donc l'idée de manifester une joie par rapport à un privilège que nous avons. Et il y a la notion évidemment de valeur, parce qu'on tire sa joie de la valeur qu'on perçoit pour nous. Et notre monde est basé sur l'idée que finalement, la valeur, c'est ce qui est rare. D'accord ? On vit dans un monde où la loi de l'offre et de la demande, ce qui a de la valeur, c'est ce qui est rare. C'est comme ça qu'on fonctionne, et on fonctionne de la même façon quand on se regarde nous-mêmes. On va être fier de ce qu'on a et de ce que les autres n'ont pas. Et évidemment, on se demande, mais qu'est-ce que ça vient faire ? Qu'est-ce que ça vient faire là ? Et je pense qu'effectivement, Paul nous propose là une autre façon d'évaluer notre valeur. Non pas par différence par rapport aux autres, d'accord ? Non pas en se disant « ce dont je suis fier, c'est ce que les autres n'ont pas ». Parce que, une fois de plus, c'est souvent cette façon-là que nous avons de raisonner. Le chemin que nous propose Paul pour définir notre valeur, la façon dont nous plaçons notre joie, eh bien, il nous dit, voilà, nous plaçons notre joie dans la perspective de retrouver la gloire de Dieu. Cette gloire, hein, dont vous vous rappelez, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, cette gloire qui était la nôtre et dont le péché nous a privés, eh bien, notre joie et notre valeur va pouvoir se placer dans la perspective de retrouver cette, cette relation avec Dieu. Donc, on voit que c'est une perspective. Alors, ce n'est pas une réalité qui est encore là, cette gloire qui était la nôtre et que Dieu va nous rendre. Cette gloire, nous ne l'avons pas encore. C'est une espérance. Et pourtant, cette espérance va transformer la façon dont nous voyons, dont nous vivons notre vie. Et c'est juste la suite. Mieux encore, nous plaçons notre fierté dans les épreuves, dans les détresses, dans les tribulations. On a lu tout à l'heure, Tahar nous a lu ça, cette promesse que les tribulations seront là. Donc ça fait d'abord, c'est vrai, référence aux souffrances liées à l'annonce de l'évangile et au rejet. Mais ça nous parle aussi de toutes les souffrances que nous traversons dans notre vie. Et ce texte nous dit, nous tirons notre joie de ces souffrances-là. Alors évidemment, non pas parce que la souffrance aurait une valeur en elle-même. D'accord ? Parfois, l'Église a pu présenter la souffrance comme une espèce de sacrifice que nous donnerions à Dieu. Bien sûr que non. C'est pas comme ça du tout. Ces souffrances, nous les voyons comme un moyen, une fois de plus, de nous affermir dans notre relation à Dieu. Donc ce texte, là, il y a une gradation qui est faite. La souffrance produit la persévérance. La solidité, donc la persévérance, c'est cette caractéristique qui fait que nous continuons, même quand c'est difficile, que nous sommes capables de porter. C'est une notion de force, de caractère. Donc, ces souffrances produisent d'abord la persévérance, puis la victoire dans l'épreuve. Alors, victoire dans l'épreuve, d'autres traductions disent la fidélité éprouvée. Le mot grec mélange ces deux notions d'une épreuve et de sa conséquence. Donc la fidélité éprouvée, l'expérience de la victoire en Dieu, c'est ça. Et ces deux caractéristiques nous conduisent vers l'espérance. Encore une fois, l'espérance. Non pas une espérance que tout va aller bien. Bien sûr, ces espérances-là sont souvent déçues. Hein, quand on pense que tout va bien se passer, si on fonde notre espérance là-dessus, eh bien, on a quasiment 100% de chance d'être déçu par cette espérance. Mais ici, l'espérance, c'est cette espérance de la proximité, de la connaissance de Dieu retrouvée. Et le texte nous dit, cette espérance-là ne sera pas déçue, parce que cette espérance de la gloire, elle est fondée sur une réalité présente. Encore une fois, hein, ce qui est devant et ce qui est déjà là. Cette réalité présente, c'est un don que Dieu nous a déjà fait et dont nous pouvons déjà tirer profit. Et ce don, eh bien, c'est celui de l'Esprit. Un don qui manifeste l'amour de Dieu pour nous, la présence même de Dieu dans notre vie, dès à présent. Et cette présence, eh bien, nous convainc de son amour, nous convainc aussi que la promesse qui nous a été faite, cette promesse va se réaliser. Parce que cette promesse d'une relation à Dieu qui contient sa gloire, cette promesse-là, elle s'appuie sur une preuve que Dieu nous a déjà donnée. Et Donc les versets, des versets 6 à 10, on va arriver dans la, eh bien dans ce, voilà, dans ce résumé de l'évangile qui nous est donné, cette déclaration d'amour de Dieu à la croix. Alors là aussi, il va y avoir, Paul va utiliser une forme en fait de une forme rhétorique de gradation en fait qui va du moins vers le plus, qui nous porte vers ce qu'il y a de plus grand. Donc cette déclaration d'amour, on va voir qu'elle est très différente d'une déclaration d'amour humaine. La façon dont les hommes et les femmes se disent leur amour, pour un homme, ça va être de dire à sa femme, par exemple, « Tu es belle ». On va reconnaître ses qualités présentes. On va lui dire, voilà, tu es, pour ce que tu es, pour ce que tu es maintenant, je t'aime. Une femme, peut-être, va voir davantage dans l'homme ce qu'il deviendra. Hein. Souvent, on dit que pour une femme, enfin, pour une femme, un homme, c'est un peu comme un smartphone. Hein. Au début, ça sert à rien. Et puis, à force d'ajouter des applications, ça commence à devenir un peu utile. Bon, voilà, donc... l'idée qu'on peut aimer quelqu'un pour les qualités qu'il a ou pour les qualités qu'il possédera. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. C'est pas comme ça que Dieu nous aime. Alors, d'abord, cette déclaration d'amour part d'un constat qui n'est pas tellement en notre faveur. Hein, vous vous rappelez donc ce texte. Christ est mort pour des pécheurs. D'accord. Nous étions sans force, incapables de donner quoi que ce soit qui ait de la valeur à Dieu. Nous étions donc pécheurs, nous étions ennemis, nous étions promis à la colère. Donc, il ne commence pas en nous disant « vous êtes beau ». Non. C'est pas ça qu'il nous dit. Vous étiez des ennemis. Là, Paul présente les choses finalement du point de vue de Dieu. Vous étiez mes ennemis. Et pourtant, je vous ai aimé parce que je suis mort pour vous, alors que vous étiez des ennemis. Et donc là, la gradation de cet amour, c'est ce qu'on trouve au verset 9 et 10. Maintenant, nous sommes déclarés justes par son sacrifice. À plus forte raison, nous serons sauvés de la colère, sauvés du jugement. Donc là, on retrouve cette idée que de la colère de Dieu sur le péché. Donc sauvé de la colère, au verset 10, donc, qui est vraiment là aussi pour moi un résumé hein, vraiment de l'évangile. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Là-dedans, on trouve vraiment cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle pour nous. Nous avons été réconciliés. Bien plus encore, nous serons sauvés par sa vie. Sauvés par sa vie. Alors, donc sauvés, effectivement, du jugement. Du jugement parce qu'il est notre avocat. La résurrection que nous fêtons, c'est l'assurance que le Christ est vivant, qu'il intercède, oui, pour nous, mais bien plus qu'il est présent dans notre vie par son esprit. C'est ce que le verset 5 nous a rappelé. Il est présent dans notre vie et il change notre façon de vivre par son exemple. Donc, on voit que ce passage nous parle d'une, d'une nouvelle vie. Une nouvelle vie, et le texte se termine en nous disant « mieux encore », donc encore une fois, hein, cette idée de gradation, « mieux encore, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu ». Donc encore une fois, cette fierté, notre fierté en Dieu, parce que les vérités théologiques, là vraiment on voit bien que Paul nous explique encore une fois qui est Dieu et qui nous sommes. Ces vérités théologiques, ce rappel de la mort de Christ à la croix pour nous, de sa résurrection. Donc aujourd'hui on fête Pâques, mais tout ça ce ne sont pas simplement des souvenirs. C'est pas simplement un sentiment d'appartenance à une communauté. Ce dont nous parle Paul, c'est d'une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon de comprendre et de vivre qui nous sommes. Parce que ce qui fait notre joie, ce qui fait notre valeur, ce n'est plus d'avoir plus que les autres, mais ce qui fait notre valeur, c'est d'avoir conscience de la présence de Dieu dans nos vies. La valeur, quand ce texte dit « nous trouvons notre fierté en Dieu », c'est pas comme si Dieu prenait toute la place et effacer finalement ce que nous étions. Quand on parle de notre identité en Christ, de notre identité en Dieu, c'est pas Dieu qui devient... Alors il y a un texte qui dit Dieu qui est tout en tous, mais c'est pas Dieu qui nous efface pour devenir tout. Puisque justement, la création, c'est que Dieu nous a donné cette place. Il nous a donné cette possibilité d'être différent de lui, d'être en relation avec lui. Ce qui fait de nous, c'est pas de faire de nous des êtres tous identiques. La valeur que nous trouvons, c'est pas de devenir tous les mêmes. Cette valeur que Dieu nous donne, c'est d'être en relation avec lui. Et c'est là-dedans que se trouve la valeur. C'est dans cet échange vivant, renouvelé, cet échange qui nous transforme, qui nous transforme pour devenir l'homme parfait, pour devenir comme le Christ. C'est ça notre espérance, cette gloire à venir. D'accord, on a toujours du mal à imaginer hein, ce que ça peut ressembler. Il n'y a pas très longtemps, c'était Timothée qui me demandait « Mais alors, comment ce sera quand on sera au ciel, tout ça, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va chanter tout le temps, tout ça ?» Bon, je lui disais « Écoute, c'est difficile à décrire et on peut que se contenter de ce que la Bible nous en dit. » Mais ce texte, par exemple, nous dit « Voilà, nous parle d'une gloire. » Une gloire, alors qu'est-ce que ça va représenter exactement que cette gloire de Dieu on a probablement du mal à se l'imaginer, mais elle nous montre que la valeur que Dieu nous donne, c'est d'être dans cette relation vivante avec lui. Et que ce plan a été établi depuis le début, hein, ce texte nous dit, quand il nous parle de la mort de Christ, au moment fixé par Dieu. Ce n'est pas un accident. C'est Dieu a prévu, depuis le début, de rétablir notre relation avec lui de cette façon-là. Donc je le redis, ce texte est vraiment une assurance, nous donne une assurance devant lui de la solidité finalement de ce que Dieu a accompli pour nous, de ce qu'il accomplit en nous. Et il nous montre aussi que cette relation que Dieu a restaurée, que cette relation, elle est précieuse. Elle lui a coûté cher, plus qu'on peut le comprendre. Elle lui a coûté cher et il nous invite à nous y investir. À ce que ce ne soit pas quelque chose d'accessoire. Quand on place sa fierté, quand on place sa valeur, son identité, sa joie dans cette relation qui nous est donnée, alors cette relation, eh bien, évidemment, il faut la nourrir. Il faut accepter de prendre du temps, accepter de s'y investir intellectuellement, émotionnellement, de la faire vivre avec ceux qui nous entourent. Donc, que le Seigneur puisse nous aider à ce que nous puissions réellement vivre cette fierté-là. Une fierté qui, contrairement aux autres, se réjouit finalement quand le plus de monde possible peut vivre la même chose. Je pense que c'est peut-être là qu'on perçoit qu'on a trouvé la juste façon de la vivre. Quand on se réjouit de voir d'autres personnes vivre la même chose que nous, partager la même fierté. Parce que là, ça veut dire qu'on a réussi à recevoir ce don que Dieu nous fait et à le recevoir de telle sorte que c'est pas dans la rareté que se trouve la valeur de ce que Dieu nous donne, mais au contraire, c'est dans son identité même, c'est dans la personne même de Dieu. Dans cette relation à lui que se trouve la valeur. Ok, je vous remercie de m'avoir écouté.